Voilà, donc on va remettre encore cet instant au Seigneur, ce message au Seigneur, ces paroles. Donc oui, Seigneur, Seigneur, je te remets, Seigneur, mon esprit, je te remets, Seigneur, mes paroles, que tu puisses parler à travers moi ce matin, Seigneur. Voilà, aide-moi, Seigneur, à être clair et à ce que vraiment le partage que je veux amener ce matin, Seigneur, vienne de toi aussi, Seigneur. Et prépare aussi tous les cœurs, Seigneur, que chaque oreille soit ouverte aussi, Seigneur, pour être prêt à recevoir ce que toi tu souhaites, Seigneur, leur apprendre encore ce matin ou leur donner, Seigneur, ce matin. Amen. Donc la lecture qu'on va prendre ce matin se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, du verset 1 à 11. Donc si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors l'unité de l'Église et l'humilité. Voici ce à quoi nous exhorte l'apôtre Paul ce matin, par ce passage. Et deux thèmes donc sur lesquels je vous propose de nous arrêter un peu aujourd'hui. Je vais m'appuyer donc sur trois points en quelque sorte. Le premier, c'est le besoin d'humilité. Le deuxième, c'est l'humilité de Christ. Et le dernier, qui sera aussi un peu la conclusion, c'est les marques de cette humilité dans notre vie. Donc le premier, le besoin d'humilité, je pourrais même dire notre besoin d'humilité. Alors pour remettre juste un peu de contexte, hein, j'aime bien à chaque fois remettre un peu de contexte au passage. Donc l'église de Philippe, donc Philippe c'est une ville située au nord-est de la Grèce, et cette église donc, a été créée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Et là il est en fait, Paul n'est plus à Philippe au moment où il écrit, mais il écrit parce qu'il veut remercier les membres de cette église qui lui ont fait parvenir un don, et il en profite et il veut aussi par la même occasion les encourager dans la foi, dans leur foi. Alors les encourager dans leur foi, parce que l'église de Philippe, comme toutes les églises, n'était pas parfaite. Et il y avait un problème en particulier qui les menaçait dans cette église, ce problème c'était la division et la discorde. Des disputes existaient entre certains membres, des tiraillements, des froids, des rivalités, des jalousies, et tout ceci venait en fait troubler l'unité de l'église. En quelque sorte, les frères et sœurs manquaient d'amour entre eux, ils manquaient d'affection les uns pour les autres. Et c'est ce qui a tristé l'apôtre Paul, et c'est pourquoi il a voulu donc aussi leur rappeler ceci déjà, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église de Christ, de corps de Christ, l'unité doit exister et être présente entre nous. Alors quand on parle d'unité, il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'uniformité. Alors quelle est la différence entre les deux, entre unité et uniformité? L'uniformité, ça concerne le fait que tout le monde agisse, fasse la même chose, mais d'un point de vue extérieur, selon une certaine apparence, qui va donner cette image uniforme. L'unité, quant à elle, c'est une unité spirituelle qui vient de l'intérieur, du cœur. Et avec les deux premiers versets qu'on a lus ce matin, Paul leur dit que leur désaccord révèle un problème spirituel qui ne peut se résoudre avec des menaces, avec des règles, parce que si ces dernières, les menaces ou les règles sont mises en place et sont respectées, ben peut-être que ça pourra donner cette apparence d'une certaine uniformité dans l'Église, mais cela ne résoudra jamais le problème de fond, qui est le problème d'unité. Parce que ce problème ne pourra disparaître que lorsque leur cœur sera en ordre avec Christ et les uns avec les autres, avec l'unité qui vient de Christ, de son esprit et de son amour. Et quand Paul commence en disant « si », s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ceci n'exprime pas un doute sur cette unité donnée par Christ. Paul n'est pas en train de dire que peut-être nous avons une consolation en Christ, que peut-être nous avons du soulagement dans l'amour, que peut-être aussi il existe une communion d'esprit, ou encore que peut-être il y a quelque compassion et miséricorde en Dieu. Ceci est au contraire à considérer, à voir comme une affirmation forte. Comme, ou puisqu'il y a consolation en Christ, comme il y a consolation de l'amour, comme il existe une communion d'esprit, et comme il y a quelque compassion et miséricorde en Christ, oui, comme ces choses sont certaines, comme elles sont déjà nôtres, les nôtres par Christ, comme elles font partie en fait de ce que c'est d'être un chrétien, et bien elles sont et elles doivent être notre motivation, notre source pour l'unité dans l'Église. Elles sont ce qui nous permet de marcher en unité, c'est-à-dire d'avoir un même sentiment, donc le désir d'avoir une compréhension commune des choses de Dieu, d'avoir un même amour, comme il est écrit aussi, entre nous tous, entre frères et sœurs en Christ, sans préférence. On connaît tous, je pense, l'expression qui dit « on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille ». Dans l'Église, nous avons des amis, mais nous sommes aussi une famille. Et on ne choisit pas la famille de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisie. Alors peut-être qu'on s'entend plus facilement avec certains qu'avec d'autres, qu'on a peut-être plus de mal à supporter certains que d'autres. Mais cet amour qui est mentionné là, d'un même amour, c'est en fait une décision que nous devons prendre. Une décision d'aimer, qui peut prendre de l'effort et de l'énergie. Aussi d'avoir une même âme, de désirer chercher la vérité de la parole de Dieu ensemble, sans vouloir mettre l'accent sur notre théologie préférée, sur argumenter aux dépens des uns des autres, non. D'avoir une même pensée, de ne pas agir selon nos préférences, nos idées, pour comment nous voulons peut-être même voir l'Église avancer, mais vraiment d'avoir tous le même but et la même attitude. Mais donc si ces choses rappelées par Paul sont certaines, si elles font même, comme j'ai dit tout à l'heure, partie normalement de la vie d'un chrétien, pourquoi alors existe-t-il ces conflits, ces discordes, cette désunion dans l'Église ? Je vais reprendre le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce verset est un des versets clés de ce passage, parce qu'il nous explique deux choses. Il nous explique l'origine des problèmes dans l'Église. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et en même temps, il nous donne aussi la solution pour les résoudre. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'unité dans l'humilité. L'esprit de parti, c'est le désir que ma volonté soit faite. Le fait que chacun soit prêt à maintenir, quoi qu'il arrive, sa propre opinion. Même si cela veut peut-être dire être en contradiction avec ses frères et sœurs. La vaine gloire, c'est cette tendance que nous avons tous à vouloir nous mettre en avant, à paraître, à être considérés, à être peut-être mis à l'honneur. Et encore une fois, peut-être aussi aux dépens des autres. Nous bâtissons par rapport à ces deux aspects-là, mais pour nous-mêmes et en détruisant les autres. Et peut-être que, encore une fois, parfois, nous agissons de manière sincère au départ. On a vraiment ce désir de voir certaines choses changer, évoluer, même dans l'Église. Mais les résultats, il faut bien avoir conscience que ça peut être destructif ou destructeur. Voilà, si nous poursuivons des buts personnels, sans penser aux autres. Mais donc, comment s'appelle cette attitude, en réalité ? L'esprit de parti, la vaine gloire, eh bien, c'est l'égoïsme. Et derrière l'égoïsme, se cache l'orgueil. L'orgueil, l'exaltation du moi. L'orgueil qui est en réalité aussi l'origine de tout péché, la racine du péché, on pourrait dire. Si on revient aux origines, on peut voir que l'orgueil a provoqué la chute de certains anges quand ils ont commencé à se regarder avec complaisance, quand Satan lui-même a commencé à dire qu'il sera semblable au Très-Haut. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. L'orgueil aussi à l'origine de la chute de l'humanité, quand Adam et Ève ont laissé ce poison de l'orgueil qui a été diffusé par le serpent pénétrer leur cœur, en voulant justement devenir aussi comme Dieu. Et donc l'orgueil qui a rendu nécessaire la rédemption. Eh bien oui, c'est vraiment, ce matin je vous le dis, c'est de notre orgueil que nous avons par-dessus tout besoin d'être délivrés. Les Philippiens avaient besoin d'en être délivrés. Les disciples de Jésus même, qui ont pourtant reçu l'enseignement de Jésus, qui était à ses côtés, on peut les voir dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, aussi dans l'évangile de Matthieu, voilà, se poser la question, mais qui est le plus grand parmi nous, aussi avait de l'orgueil. Oui, nous tous, nous avons besoin d'être délivrés de l'orgueil, et y compris nous, qui sommes ici présents ce matin. Mais que cela est difficile. Difficile, déjà parce que cet ennemi est en nous, mais aussi car la solution pour y arriver va au final à l'encontre de peut-être, en tout cas, pas peut-être d'ailleurs, de tout ce qu'on peut entendre autour de nous, des pensées de ce monde, de ce que le monde nous montre, nous pousse à faire, nous pousse à être. Mais nous avons une solution, nous avons un remède face à cet orgueil qui nous est donné ici. L'humilité. L'orgueil peut détruire une église là où l'humilité peut l'édifier. Si on regarde de plus près ce que veut dire l'apôtre par humilité, on peut y voir deux aspects à celle-ci. Le premier, c'est la fin du verset 3, regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Au-dessus de nous, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes, qu'on doit se considérer comme inférieur aux autres et que les autres sont meilleurs que nous. Dans Romains 12, 3 d'ailleurs, Paul parle d'avoir une pensée réaliste de ce que nous sommes en Christ, en Jésus-Christ, une pensée qui n'est ni trop haute, ni trop basse. Ce verset nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc oui, c'est pas... La question n'est pas de se dire « je suis moins bon qu'un autre ». Paul parle en fait de l'importance que nous donnons à l'autre, et non pas de notre valeur par rapport aux autres. L'homme humble n'est pas celui qui a une mauvaise opinion de lui-même, mais c'est celui qui ne pense pas du tout à lui-même, celui qui fait passer les autres avant lui. Si on prenait le premier chapitre de cette épître aux Philippiens, on pourrait voir que Paul y met Christ à la première place, nous dit de mettre Christ à la première place. Le principal est que Christ soit annoncé. Il dit même « Christ est ma vie, mourir m'est un gain ». Mais dans ces versets, Paul nous dit désormais qu'à la seconde place, derrière Jésus donc, ce n'est pas nous qui doit y être, mais c'est nos frères et sœurs en Christ. Et que si nous passons notre vie à nous mettre devant, si tout le monde fait pareil, les conflits seront inévitables. Le second aspect de l'humilité qu'on peut voir dans le verset 4, qui est un peu une suite, nous dit que si nous pensons que les autres sont plus importants que nous, eh bien nous allons considérer leurs intérêts comme importants aussi, et donc les prendre en considération. En étant humble, le désir de chacun devient l'unité de l'Église, et le « nous » devient plus important que le « moi ». Alors ce vrai renoncement de soi-même, se recentrer sur l'autre, non sur soi, sur son moi intérieur, même comme on peut souvent entendre aujourd'hui dans beaucoup de livres qui sont proposés dans le monde. Voilà, mettre à l'entière disposition de Christ tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu et le bien de nos frères et sœurs en Christ, voilà ce qu'est l'humilité. Être rien pour que Dieu puisse être tout. Reconnaître la vérité de notre position comme créature et rendre à Dieu la place qui lui est due, Laissez Dieu être tout en nous, Laissez Dieu être tout en nous soumettant à sa seule volonté. Mais comment apprendre cette humilité? Comment l'acquérir? Je sais que ce n'était pas facile. Eh bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dieu faisant les choses bien, il nous demande quelque chose que Jésus a fait parfaitement. Ayez la même attitude que Jésus, la même humilité, le même désir de vous abaisser pour servir vos frères et sœurs. Ayons en nous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Voilà ce qui va nous aider. Regarder à l'exemple de Jésus et se revêtir de l'humilité de Christ lui-même. Et donc j'en arrive à mon second point qui est l'humilité de Christ. Parce que c'est important de s'arrêter justement sur Jésus. J'ai dit aussi tout à l'heure que nous avions reçu l'orgueil d'Adam, car nous vivons aussi en Adam en fait dans notre état naturel. Mais je peux dire maintenant que nous recevons de Christ l'humilité. Car Jésus est venu personnifier sur la terre l'humilité perdue. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre véritablement en Christ et demeurer en lui, et lui en nous. Et c'est cette humilité de Christ que Paul décrit dans les versets 6 à 11, un modèle d'humilité parfaite. On peut y voir les étapes de cette humiliation. Du ciel à la terre, de la gloire à la honte, de maître à serviteur et de la vie à la mort. On va reprendre ces étapes ensemble. Du ciel à la terre et de la gloire à la honte. Il faut déjà nous rappeler donc qui est Jésus. Jésus était le Fils de Dieu. Avant qu'il ne vienne sur terre, il était dans le ciel avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus était égal à Dieu, il était Dieu avant de devenir homme. C'est à travers lui que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. On peut lire dans Colossiens au chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. En tant que Dieu, Jésus-Christ a toute la gloire et la louange dans les cieux. On pourrait presque dire, si on veut reprendre des termes aussi d'aujourd'hui, qu'il avait une situation confortable, avec beaucoup de privilèges. Et beaucoup se serviraient de ces privilèges pour leur propre avantage, mais pas Jésus. Lui s'en est servi en faveur des autres, en notre faveur. Jésus ne considérait pas son égalité avec Dieu, il est écrit dans le texte, comme une proie à arracher, ce qui veut dire comme un trésor à conserver jalousement. Alors que lui était dans le ciel, il restait le problème du péché sur la terre. C'est pourquoi Jésus s'est humilié dans les cieux pour devenir homme. Parce que oui, bien qu'étant Dieu, il est devenu homme pour accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Et là où Satan a dit « je veux », là où il ne pouvait se contenter d'être une créature, mais qu'il voulait au contraire prendre la place du Créateur, Jésus lui a dit « que ta volonté soit faite ». Lui, le Créateur, est devenu volontairement un homme. Il n'a pas pensé à lui-même, il a pensé aux autres, il a pensé à nous. Un Dieu fait homme, mais qui en devenant homme, a laissé de côté, a abandonné donc ses privilèges, ses droits divins, par amour pour son Père, et par amour pour nous. Et c'est là ce premier modèle d'humilité. Avoir l'esprit de Christ, c'est avoir une attitude qui nous fait dire « Je ne peux pas garder mes privilèges pour moi-même. Je dois les mettre au service des autres et pour cela, je dois y renoncer et payer le prix peut-être qu'il faudra. » Et de mettre à serviteur. Parce que oui, Jésus avait tous les droits. Encore une fois, il ne s'est pas acharné à faire valoir ses droits. L'exemple de Jésus, c'est donc renoncer à ses droits pour le bien des hommes, pour servir les autres. Il n'a pas joué un rôle, il n'a pas fait semblant d'être serviteur. Il est écrit dans Matthieu, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Dans Luc au chapitre 22 aussi, on peut lire « Mais car quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ?» C'est Jésus qui parle. « N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Oui, Jésus a été ce modèle d'humilité que nous devons désormais imiter. Je vais reprendre encore Jean au chapitre 13. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. De la vie à la mort. Jésus s'est humilié en obéissant jusqu'à la mort. C'est ce qui est écrit aussi aujourd'hui. Jésus est un modèle d'humilité par son obéissance, soumis entièrement à la volonté de Dieu. Jésus qui s'est fait rien, encore une fois, pour que Dieu soit tout. Et je vais prendre simplement là 6 versets aussi, qui sont dans la parole, tous dans l'évangile de Jean, et qui nous montrent justement l'esprit de soumission de Jésus, son esprit d'obéissance, son esprit d'humilité. Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, d'après, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chapitre 7. Jésus leur répondit : « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Les deux derniers seront du chapitre 14. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Tous ces versets disent la même chose. Le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui œuvre. Jésus ne se met pas en avant. Il obéit. Et jusqu'à la mort. Jésus s'est sacrifié en donnant sa vie, en mourant sur la croix, sans regarder à l'honneur qu'on lui devait. Et cette mort est la manifestation suprême d'humilité. Beaucoup sont prêts à servir les autres, à condition que cela ne leur coûte rien ou pas grand-chose. C'est plus difficile quand il y a un prix vraiment à payer, important. Mais Jésus, lui, est allé jusqu'à la mort volontairement. Sa vie pour les péchés du monde. En préparant ce partage, j'ai pu lire le témoignage suivant. Un missionnaire qui se promenait dans un marché au Brésil et qui vit un panneau où il était écrit « Croix, bon marché ». On vendait des croix, il était écrit « Croix, bon marché ». Alors il se dit « Voilà ce que beaucoup de chrétiens recherchent aujourd'hui. Des croix, bon marché ». Mais la croix de mon Seigneur n'était pas bon marché. Alors pourquoi la mienne le serait ? L'homme à l'esprit humble n'évite pas le sacrifice. Celui qui veut se vêtir de l'humilité de Jésus vit pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Et si la gloire de Dieu ou le bien des autres nécessite un sacrifice, il doit l'accepter volontairement. Et il l'accepte volontairement. Le sacrifice et le service vont, ou en tout cas devraient aller, de pair avec le chrétien. Petit point de vigilance tout de même, le sacrifice que l'on peut faire ne se mesure pas et ne se mentionne pas. Celui qui parle de ses sacrifices n'a pas l'humilité de Christ. Parce qu'il faut avoir en tête que l'orgueil n'est jamais très loin. Un autre exemple à ce propos. Si vous me dites ce matin que voilà, moi je suis une personne assez humble ou assez humble, je ne vous contredirai pas, frères et sœurs, mais je vous inviterai à réfléchir à cette phrase. L'humilité est un don que l'on perd au moment même où l'on croit l'avoir. Alors oui, Jésus s'est humilié. Et c'est en s'abaissant que Jésus a au final été élevé et honoré. Une fois sa mission terminée, en raison de son obéissance, Dieu lui a rendu sa position originelle à sa droite. La vie de Jésus nous démontre plutôt le principe que l'on peut trouver aussi dans Luc au chapitre 14. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mais à nous aussi, le Seigneur nous dit, justement, il nous promet ça. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça, c'est dans 1 Pierre. Alors, je vais terminer avec le dernier point. Tout comme Jésus nous dit dans Jean au chapitre 15, verset 14, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Cette image du sarment attaché au cep, peut le reprendre pour l'humilité aussi. Si l'humilité est la racine de l'arbre, sa nature sera nécessairement vue dans chaque branche, dans chaque feuille, dans chaque fruit. Et c'est cette humilité envers notre prochain aussi qui est la preuve que l'humilité de Christ a établi sa demeure en nous. Et si l'humilité de Christ est en nous, eh bien ceci doit se voir dans notre vie quotidienne. Et je dis bien quotidienne parce que c'est dans celle-ci que l'on voit réellement l'esprit qui nous anime. Il ne s'agit pas juste ou de paraître humble uniquement le dimanche, quand on vient, ou sur voilà, une demi-journée, quand on est à l'église. L'humilité, chaque jour, voilà ce que le Seigneur nous demande. Et si on peut voir dans notre vie des attitudes comme de la susceptibilité, comme de l'impatience, comme du jugement, comme des paroles dures, et encore bien d'autres choses, ceci doit nous alerter sur notre manque d'humilité, justement, sur notre besoin de toujours rechercher à revenir auprès de Christ, encore davantage, à se souvenir de ce qu'il a fait pour nous, à nous souvenir de la grâce de Dieu, car c'est elle qui nous gardera vraiment humbles. Car sa grâce nous montre et nous rappelle sans cesse à quel point nous étions pécheurs et nous avions besoin d'être sauvés. Alors oui, frères et sœurs, ce matin encore, je vous dis, humilions-nous selon l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre vie s'en verra transformée et notre unité dans l'Église en sera renforcée. Et comme nous le dit aussi l'apôtre Paul, et je vais terminer avec ce verset, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen.